Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés aux cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce qui différencie Homo sapiens des chimpanzés, ses cousins à la fois proches et lointains, s'interroge Alain Prochion. D'où nous vient notre cortex monstrueux et comment sommes-nous plus que nos gènes? Que révèle le choc entre l'ethnocentrisme européen et celui des indigènes américains à la fin du XVe siècle? Quelle est la particularité de la pensée européenne sur le rapport âme et corps, s'interroge Justin Smith, et comment Leibniz s'est-il doté d'outils conceptuels pour se battre en son temps contre la hiérarchisation des races humaines que ses contemporains empiristes étaient en train d'articuler. Voici un nouveau volet en forme de diptyque, extrait du colloque du Collège de France donné en 2017 sur le thème « Les natures en question ». Dans une approche interdisciplinaire, ce colloque propose d'examiner les questions soulevées par les déplacements de la frontière entre déterminations naturelles et déterminations humaines. En seconde partie, ce sera la notion de nature humaine qui sera examinée. Prenant pour objet des théories raciales dans la philosophie moderne, Justin Smith, professeur de philosophie et d'histoire des sciences à l'université Paris 7, que vous allez entendre ce matin, met en lumière que le modèle européen de la nature humaine s'élabore de façon vraiment systématique lorsqu'il est confronté à l'altérité, en particulier à ce laboratoire anthropologique que fut la découverte par l'Occident de la nature des civilisations américaines. Mais tout de suite, c'est la question des rapports entre humains et non-humains qui est étudiée en compagnie d'Alain Prochion, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Processus morphogénétique, directeur du Centre interdisciplinaire de recherche en biologie et administrateur du Collège de France. Il s'interroge ce matin comment l'homme moderne peut-il être à la fois animal et non-animal ? Comment l'immaturité du cerveau humain à la naissance, son développement à l'extérieur de la mère, dans un milieu social complexe, a pu jouer un rôle dans le creusement des différences avec les chimpanzés? Que pouvons-nous apprendre de la comparaison du développement cognitif des humains et de celui des primates non humains? Comment le cerveau et l'appareil vocal ont-ils coévolué ensemble? Comment le mâle Homo sapiens s'est-il féminisé au profit de l'espèce? Entre les chimpanzés, l'homme de Néandertal et Homo sapiens, y a-t-il eu un saut de la nature lié à la naissance du langage syntaxique moderne il y a 100 000 ans? Et quel rôle a pu jouer la grande activité de mobilité du génome humain au cours de l'évolution? Nous gagnons le Collège de France le 19 octobre 2017 pour la conférence d'Alain Prochion intitulée de 1,23% à 900 cm3, petite différence et grandes conséquences.
Donc la question que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la question de la différence entre l'homme et l'animal. Et en l'occurrence, je vais aller au plus haut de l'animal, puisque ce sera essentiellement la différence entre l'homme et le chimpanzé, qui, comme vous le savez, et c'est un point de vue évolutif, notre cousin le plus proche. Et ça a été marqué par un chiffre qui a fait le tour des imaginaires, le chiffre de 1,23%. Qui est censé être la différence génétique par mutation ponctuelle, en l'occurrence, entre le génome du singe et le génome du chimpanzé. Le chimpanzé, d'ailleurs, étant plutôt pan que le chimpanzé, puisque le chimpanzé est une espèce pan. Il y a une autre espèce pan qui est le bonobo, dont vous avez entendu parler. Donc, cette peinture rupestre, qui est vieille de 40 000 ans, montre un de nos ancêtres qui est génétiquement un humain moderne. Ça se voit peut-être pas forcément là, mais c'est le cas, qui ne semble pas considérer la nature comme un parc de loisirs. Mais pas franchement rassuré devant cet animal. Ces humains modernes, nous donc, hein, sont apparus au cours du Pléistocène, une période du Quaternaire, et le plus ancien sapiens a été découvert récemment au Maroc par une équipe dirigée par Jean-Jacques Hublin, qui est professeur sur une chaire internationale au Collège de France, et Abdelawed Ben Serre. Et des techniques de datation qui ont été développées par le labo de Leipzig, par Jean-Jacques et ses collègues, ont daté donc cet humain, ce sapiens, d'environ 300 000 ans. Il nous a fait vieillir d'environ 100 000 ans, on en était à 200 000 avant. Bon, c'est pas entièrement la fin, puisque l'embranchement d'avec les Néandertaliens, hein, le dernier embranchement date d'il y a environ 500 000 ans. Donc en fait, le premier sapiens peut être n'importe où le long de cette branche, entre moins 500 000 et aujourd'hui. Donc si je repars d'une revue récente de Souza et de ses collègues, nous pouvons donner quelques chiffres qui contrastent de façon dramatique, mais vraiment dramatique, avec la prétendue identité de génome entre les grands singes, dont Sapiens, hein, qui, évolution oblige, est un grand singe, anthropoïde. Sur un plan quantitatif, nous verrons plus tard, pour le qualitatif, notre cerveau pèse 1400 grammes, contient 86 milliards de neurones, 150 milliards de synapses, 150 000 km d'axones myélinisés. Ça veut dire 3 à 4 fois plus de cerveau qu'un chimpanzé de 40 kg de poids sec, comme nous. Nous avons 40 kg de poids sec. Bon, évidemment, quand le poids n'est pas sec, ça peut faire plus. 4 fois plus de neurones, des espaces interneuronaux plus grands, qui reflètent par leur volume de l'accroissement et l'accroissement non linéaire du nombre de fibres, de dendrites, d'épines dendritiques, de synapses, une explosion de signalisation, une explosion cognitive qui laisse très loin derrière nos cousins chimpanzés et bonobos, deux espèces de pannes différentes. Donc on s'est séparé des paninas il y a environ 6 ou 7 millions d'années, et puis ces deux-là sont séparés après, mais ces deux espèces de pannes sont ce qu'on appelle aujourd'hui en fait les chimpanzés, mais c'est une licence. Comme ces neurones et synapses ne sont pas n'importe où, hein, car il n'existe aucun aussi des changements qualitatifs, il faut comprendre comment les 1,23% supposés de différences génétiques entre sapiens et ses cousins peuvent rendre compte de cette explosion. Question essentielle, si on ne saisit pas uniquement des chiffres qui servent les idéologies, puisqu'au 1,23%, on peut ajouter les 10% de cerveau utile ou les 98% d'ADN poubelle et autres huiles vesées, pas forcément uniquement journalistiques malheureusement. Donc, vous avez quelques exemples de mutations, de types de mutations qui peuvent conduire à des modifications d'un gène et de son activité. Alors là, par exemple, vous avez une modification dans un exon. Donc, ce sont deux mutations ponctuelles qui sont intéressantes entre le chimpanzé et puis sapiens. Donc, deux mutations ponctuelles qui ont des effets assez importants sur beaucoup de choses, en particulier sur la capacité linguistique, mais aussi sur les capacités motrices telles qu'elles sont gérées au niveau central par la différenciation de neurones. Et vous avez aussi des duplications. Donc là, vous avez un gène qui a été dupliqué. Et après duplication, vous pouvez avoir des mutations. Vous avez aussi des délétions. Vous avez des modifications dans les régulations en cis, c'est-à-dire des régions qui régulent l'expression des gènes. Il y a qu'ici, ce gène est le même, mais il est beaucoup plus fortement exprimé quand on met un promoteur d'Homo sapiens que quand on met un promoteur de chimpanzé. Vous avez d'autres mutations aussi dans des régions régulatrices qui vont modifier non seulement le niveau d'expression, mais l'endroit où c'est exprimé. Et puis, vous avez d'autres mutations, une mutation qui va faire que ce gène n'est plus exprimé chez Homo sapiens alors qu'il était chez le chimpanzé. Donc, des modifications relativement discrètes qui peuvent avoir, bien entendu, d'énormes conséquences sur le niveau d'expression, la durée d'expression et la localisation d'expression de gènes qui peuvent avoir des effets extraordinairement importants. Alors si je compte évidemment les délétions et les duplications, on n'est plus à 1,23%, on est passé à 6%. Mais au fond, même 6%, pour expliquer une augmentation de 400% simplement de la taille du cerveau, c'est pas linéaire, vous le voyez bien. Donc je vais vous montrer rapidement, illustrer en fait rapidement l'importance des séquences régulatrices à travers un exemple, hein, qui est celui d'une région qui a évolué très rapidement entre l'homme et le chimpanzé. C'est des petites régions qui sont très fortement conservées dans tous les génomes, donc on peut penser qu'elles sont importantes, parce qu'elles ont été conservées tout au long de l'évolution, mais qui tout d'un coup, le long du lignage humain, sont mis à muter de façon incroyable. Vous avez donc ces 1219 paires de bases, c'est rien du tout, hein, sur un génome de 30 milliards de bases, un peu plus. Ça c'est le chimpanzé, ça c'est l'humain, donc il y a des mutations qui sont arrivées chez les chimpanzés, des mutations qui sont arrivées chez les humains qui font que si vous prenez cet élément et que vous mettez derrière un gène rapporteur et que vous mettez dans une souris, je passe sur les détails, vous voyez que, par exemple, dès le 10e jour, si vous mettez le promoteur humain, vous avez une forte augmentation de l'expression dans le cortex ici de votre souris. En plus, là, quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on sait comment ça se passe parce que il y a un repliement de la chromatine, une interaction avec un promoteur d'un gène ici qui est un récepteur d'un facteur qui est responsable de la prolifération des progéniteurs. Et vous voyez, c'est très rigolo parce que si vous introduisez donc ce élément humain ou un élément de chimpanzé chez une souris, chez l'élément de chimpanzé ne va absolument pas changer la taille du cerveau de la souris. Mais si vous introduisez l'élément humain, vous allez avoir plus de prolifération des progéniteurs cérébraux et vous allez avoir une augmentation de la taille du cerveau de votre souris. Donc la démonstration directe qu'une petite modification comme ça de 1200 bases avec 6 mutations là-dedans, eh bien, ça peut vous augmenter directement la taille du cerveau de la souris. Alors la souris s'est séparée de nous il y a 70 millions d'années, donc ce n'est pas forcément le bon tube à essai, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est pas... Voilà. D'autres modifications qui sont intéressantes, c'est des mutations qui sont liées à des délétions. Là, ce sont des régions qui sont présentes chez toutes les espèces, mais chez nous, ça a disparu. Donc ça s'appelle humain, con pour conserver et del pour déléter. Il y en a 510 qui ont été caractérisés chez Sapiens. Il y en a 61 qui manquent dans les 510 chez Néandertal. Alors ça prouve que déjà, Néandertal, c'est pas tout à fait un Sapiens. J'y reviendrai là-dessus parce que c'est intéressant par rapport à la question du langage. C'est juste pour vous montrer que de petites délétions ou de petites mutations peuvent avoir des conséquences extraordinairement importantes sur le développement d'un animal. Ici, c'est le développement des vibrisses, mais aussi des soies sur le pénis des singes, qui sont évidemment des choses très importantes, puisque ça a une fonction dans l'éjaculation précoce du singe. Et nous, on l'a perdu, parce qu'en fait, la question qui s'est posée là-dessus, c'est quand on a perdu cette région, eh bien, on a été, d'une certaine façon, un peu féminisé. Le mâle humain a été féminisé. Ça l'a rendu un peu plus sociable, un peu moins agressif. C'est un domaine de 5 kilobases, hein, c'est rien du tout. Et donc, il a perdu une partie de ses canines. Si vous comparez des canines de chimpanzés et des canines humaines, vous verrez que ça n'a rien à voir, même chez les mâles. Surtout chez les mâles, je dirais. Et donc, on peut suivre Dixon, qui en 98 disait que la simplification de la morphologie pénienne tend à être associée à une diminution de dysmorphie sexuelle, féminisation des canines, taille modeste des testicules, mobilité réduite des spermatozoïdes. Et tout ça, c'est associé à des stratégies monogamiques de reproduction, puisque quand il y a une moindre compétitivité entre les mâles, puisque les femelles deviennent monogames, bah à ce moment-là, c'est pas besoin d'avoir des spermatozoïdes rapides. Même un lent peut arriver au but, il est plus en compétition avec les autres. Donc ça calme un peu le jeu chez les mâles. Et ça va m'amener assez brièvement à comparer le développement cognitif des humains et des primates non humains. Et je vais commencer avec cette diapositive qui est très importante. Elle vous montre qu'à la naissance, le cerveau humain a 10% de son cerveau adulte qu'il atteint vers une quinzaine d'années, en fait. En fait, le cerveau est terminé à 30 ans chez l'homme. Alors que chez un chimpanzé, à la naissance, le cerveau est 50% du poids du corps. Et il arrive à la maturité vers 6-7 ans, au point de vue. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que, d'abord, c'est une nécessité. Un bipède ne peut pas accoucher d'un cerveau de 700 cm3. Voilà. Donc, il faut accoucher d'un cerveau de 200 cm3, beaucoup plus petit, quoi. Même moins, 10%, ça fait 140 cm3. Vous imaginez, c'est rien du tout. Alors qu'un singe accouche d'un cerveau de 200 cm3. Mais 700, c'est pas possible, surtout à cause de la bipédie, question d'obstétrique essentiellement. Mais ça veut dire, en fait, que le cerveau humain va se développer à l'extérieur de la mère. C'est-à-dire qu'il va se développer dans un milieu social. Et que la construction du cortex va être imprégnée, le cortex va être sécrété d'une certaine façon par le milieu social. C'est-à-dire que même s'il y a des collectifs, comme dirait Philippe, des collectifs, le collectif, il va s'intégrer dans la compréhension. Il va être naturalisé cérébralement, individu par individu. Donc, une fois que ça s'est fait, c'est difficilement réversible parce que ça se fait dans des périodes qu'on appelle périodes critiques, qui sont des périodes transitoires de plasticité du développement du cerveau. Et donc, pratiquement tout le développement cortical d'un humain se fait au cours d'une période qui est une période postnatale. Les périodes critiques, c'est les périodes pendant lesquelles le cerveau est capable d'être modifié par l'environnement, c'est-à-dire où il peut apprendre morphologiquement et physiologiquement dans son structure. C'est pas quelque chose de théorique, c'est vraiment c'est de la forme cérébrale qui bouge. Et puis après, la plasticité diminue énormément. C'est pas qu'il n'y en a pas du tout, mais il y en a beaucoup moins. Et pour les fonctions cognitives, vous voyez que ça peut aller, pour les fonctions sociales, jusque vers 15-20 ans, le cerveau reste capable d'apprendre de l'extérieur, mais d'apprendre, ça veut dire de se modifier structurellement. Ce n'est pas uniquement un apprentissage virtuel ou un truc qu'on peut apprendre et désapprendre. Donc ça s'inscrit dans la structure de la matière cérébrale. C'est pour ça que cette période critique, et en particulier le fait que le cerveau se développe de façon postnatale dans un milieu social complexe, qui est rendu complexe par le fait aussi que le petit étant tellement désarmé à la naissance, la survie de l'espèce nécessite une protection de l'enfance, une longue adolescence et en fait une structuration sociale qui est extraordinairement importante, qui est beaucoup plus forte chez Sapiens que dans d'autres espèces. Et avant d'aller plus loin, je vais vous en tenir du fait d'un article d'un type qui vient de sortir un article qui s'appelle Wyszewski, M. Wyszewski sur Barry Archive en 17. Et il nous rappelle que le système vocal, alors ça a à voir avec la langue, parce que là il y a quand même les problèmes d'apprentissage de la langue. C'est une question absolument essentielle si on veut comprendre ce que c'est qu'un sapiens pour de bon. Donc il nous rappelle que le système vocal des chimpanzés est limité à 20 à 100 vocalisations distinctes. Les humains peuvent communiquer par plusieurs dizaines de milliers de mots différents. Et ça, il ne s'agit pas seulement de cerveau, mais il s'agit de coévolution, si vous voulez, du cerveau, et aussi de l'appareil vocal dans lequel le larynx, la langue, la musculature des lèvres, de la bouche et du diaphragme, la forme de l'osioïde, la forme de la cavité en dessous du crâne, etc., joue un rôle absolument fondamental. Et je ne peux pas oublier, évidemment, les systèmes sensorimoteurs qui sont adaptés à toutes ces modifications et qui sont eux-mêmes modifiés, indépendamment de toute composante qui serait purement cognitive. Sur ces bases, quand on regarde l'osioïde, la courbure des os à la base du crâne, quand on regarde FOXP2, qui est donc un gène impliqué dans la subtilité linguistique, on peut calculer et proposer, évidemment, que les bases anatomiques et génétiques du langage contemporain étaient présentes il y a 600 000 ans. Et ça pose une question, parce que l'osioïde, par exemple, ou encore lingual, qui présente une forme en U, est situé au-dessus de larynx, n'est lié à aucune structure osseuse. Et plusieurs muscles de la mâchoire y sont rattachés, etc. Donc ça, je passe là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que l'osioïde des chimpanzés diffère d'une autre. Et celui des australopithèques est de type chimpanzé. Celui d'un erectus de 400 000 ans est proche d'une autre, et celui de Néandertal est identique au nôtre. Ce qui laisse supposer que l'osioïde moderne, il était déjà présent chez les humains archaïques comme Néandertal, les Denisoviens pareil. Et c'est pareil pour la flexure des os sur la base du crâne, c'est une chose importante, qui apparaît déjà, elle, chez un erectus, il y a environ plus d'un million d'années. Donc, elle est présente chez les Néandertaliens. Et donc, on peut supposer que sur le plan osseux, tout était prêt pour parler il y a environ 500 ou 600 000 ans. Et puis, le gène FOXP2, muté, la forme moderne, elle était mutée aussi chez Néandertal. Donc, en fait, ça donne l'impression ou le sentiment que Néandertal et que l'ancêtre que nous partageons avec Néandertal, 600 000 ans environ, avait des capacités de vocalisation très supérieures à celles des chimpanzés. Mais une chose très étonnante quand même, c'est que les artefacts que vous connaissez, qui sont ceux qui ornent les grottes, les peintures pariétales, etc., les bijoux sculptés, sont eux apparus il y a seulement 40-60 000 ans, au pire 100 000 ans. C'est-à-dire que, alors que tout était prêt, il semble qu'il y ait une espèce de bond culturel absolument fantastique, bien après ces modifications morphologiques. Donc la question, c'est est-ce qu'il s'agit d'une révolution graduelle sur plusieurs centaines de milliers d'années ? Ça aurait été le point de vue de Darwin. Vous savez que Darwin ne voulait pas imaginer qu'il y ait eu des bonds comme ça. Mais l'auteur est plutôt en accord avec Huxley, Thomas, qui, lui, pensait qu'il peut y avoir effectivement des bonds et que, pour l'auteur de cet article, ce bond serait lié justement à la naissance du langage syntaxique moderne il y a seulement 100 000 ans. Et que toute cette explosion artistique, y compris la capacité pour des sapiens de migrer par ici, puis en prenant ici des bateaux, jusqu'en Australie. Donc en fait, une connaissance technique, même une connaissance de navigation qui était tout à fait exceptionnelle, il y a environ une centaine de milliers d'années, c'était, en fait, c'était des humains tout à fait modernes. Alors, pourquoi on a eu ce bond, alors que si peut-être tout était prêt, et puis il ne s'est rien passé, puis d'un coup, c'est arrivé. Donc la question qui se pose, c'est évidemment la question du comment. J'avais une autre diapositive que vous avez vue ici. C'est une diapositive qui est assez intéressante parce qu'elle compare, si vous voulez, un enfant de 2 ans et demi à un chimpanzé adulte, un orang-outan adulte, sur des critères qui sont des critères physiques, et on voit que l'humain n'est pas meilleur à 2,5 ans qu'un chimpanzé adulte pour ce qui est des performances physiques, mais dès qu'il s'agit des domaines sociaux, et même à 2 ans et demi, c'est-à-dire qu'avant que le cerveau ne soit terminé, il est déjà très très supérieur, y compris pour les trucs de théorie de l'esprit, etc. Donc le môme humain est probablement à cause de cette immaturité, de cette différenciation assez lente, hein, très lente, néoténique, eh bien ce môme humain est très rapidement supérieur sur le plan cognitif et sur le plan des rapports sociaux d'un chimpanzé de bonne taille, d'un orang-outan qui est lui-même sympathique hein, par ailleurs, mais bon. Voilà. La question, c'est la question du comment, hein, bien entendu. Donc, ce qui s'est passé probablement, c'est un effet de ralentissement. C'est-à-dire que le développement du cerveau s'est ralenti, hein, ça c'est clair. Et c'est ce qu'on appelle la néoténie. C'est-à-dire que, fondamentalement, il y a des organes qui maturent à la même vitesse chez les deux espèces, mais assez peu, en fait, entre le chimpanzé et l'humain. Et puis, il y a un ralentissement très fort, en fait, du développement du cerveau. Là, c'est la néoténie humaine, c'est-à-dire qu'en rouge, vous avez l'expression de gènes au cours de l'âge, vous voyez que ces gènes montent en expression très faiblement, alors que le chimpanzé a une expression plus rapide, et on prend évidemment un macaque comme groupe externe, parce qu'il faut toujours un groupe externe pour savoir si le changement entre les deux branches est lié à un changement ici, et si celui-là il a la même chose que celui-là, c'est que le changement s'est fait le long de la lignée humaine. Et si le chimpanzé et le rhésus sont similaires, ça veut dire que le changement, le ralentissement, est un ralentissement spécifiquement humain. Donc ça, c'est intéressant à constater, surtout de rechercher quels sont les gènes qui sont ainsi ralentis. Les gènes ralentis sont des gènes qui sont impliqués dans la construction des réseaux neuronaux dans le cortex, essentiellement. Par exemple, le gène comme ARC, le gène comme NEUR1 ou IGR, ça, c'est des gènes de synapse, sont des gènes qui sont vraiment impliqués dans la construction des réseaux neuronaux. Et si on regarde la construction des synapses chez un humain, chez un chimpanzé, chez un macaque, on voit que l'humain est retardé par rapport au macaque. Donc, dans ce cas-là, il y a un gène très important qui s'appelle MEF2A. Et MEF2A contrôle pas mal de ces gènes de plasticité corticale. Et vous voyez qu'en amont de MEF2A, il y a eu plein de mutations qui sont arrivées, qui sont des STIP, ça fait un petit nombre de mutations, mais qui ont forcément des effets très importants en cascade pour que ça contrôle tout un processus de maturation. Et cette mutation est arrivée après la séparation d'avec Néandertal. Donc elle est vraiment spécifique de Sapiens, des humains modernes. Alors évidemment, ça s'accompagne d'une augmentation du cortex à cause d'un plus grand nombre de progéniteurs. Le cortex augmente, de nouvelles aires apparaissent. Et quand de nouvelles aires apparaissent, de nouvelles connexions apparaissent entre les aires. D'abord, ce n'est pas un accroissement homothétique, il y a des régions qui accroissent plus vite que les autres, en particulier les régions frontales ont poussé énormément chez Sapiens par rapport aux autres. Et puis, vous avez de nouvelles connexions. Vous voyez ici, par exemple, qu'une connexion assez importante hein, qui lie l'aire de Broca à l'aire de Wernicke, il s'agit évidemment du langage dans l'hémisphère gauche, et bien, vous voyez que vous avez une invasion des régions temporales chez l'humain que vous ne voyez pas chez le chimpanzé et que vous ne voyez certainement pas chez le macaque. Donc, une modification du nombre de cellules, une modification des trajets. Donc, tous ces genres de modifications ont donc des effets qui ne sont pas linéaires, si vous voulez, avec le simple effet chimique de la mutation, parce que ça a des effets importants, évidemment, au niveau cognitif. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe par le fait que notre génome est quelque chose d'épouvantable. C'est un génome qui est d'une très, très forte instabilité. 45% du génome humain est composé de ce qu'on appelle des éléments transposables, des éléments qui se baladent partout dans le génome. Alors, ils sont tous, sauf une centaine chez Sapiens fossilisés, c'est-à-dire qu'ils ne bougent plus. Quand ils ont bougé, ça a été une catastrophe. C'est une adaptation très rapide du génome, une évolution très rapide des génomes. Et là, vous voyez, c'est que vous avez deux séquences, par exemple, ALU, qui fait partie de ces gènes-là, qui sont capables de passer d'un morceau du génome à un autre. Donc, ils sont passés, ils se multiplient. Et quand il y en a deux, au moment des divisions cellulaires ou des divisions méiotiques, vous pouvez avoir des crossing-over qui fait que vous allez refaire votre génome, et là, vous allez avoir une délétion, et là, une duplication. Et 45% du génome fait comme ça, c'est pas de la blague, ça va modifier énormément les génomes, et ça vous attire aussi votre attention sur le fait que les génomes sont des choses extraordinairement instables. Et elles sont encore instables, c'est-à-dire que ça relativise beaucoup le drame de la manipulation génétique, à mon avis. Par exemple, si vous regardez les SNPs, les humains sont assez loin des gorilles et des chimpanzés et des bonobos, très loin des orang-outans, mais enfin plus près des bonobos et des gorilles que des orang-outans par le nombre de SNPs, c'est-à-dire des mutations ponctuelles. Mais si vous regardez les séquences ALU, hein,
Vous voyez qu'on prend vraiment de la distance par rapport à toutes les autres espèces. C'est moins vrai des séquences Lyme qui sont d'autres éléments de type transposable. Mais ça, ça vous montre que cette grande activité de mobilité du génome au cours de l'évolution a évidemment introduit des changements qui sont des changements massifs dans notre système nerveux. Ça a aussi introduit avec, ça c'est un truc intéressant, c'est des sites de méthylation différents, c'est-à-dire que on peut ne pas bouger le génome, mais on peut modifier sa structure épigénétique. Et une des façons de le faire, c'est de méthyler les CPG, c'est-à-dire les cytosines dans des îlots CPG. Et quand vous modifiez vos îlots CPG, vous introduisez des sites qui peuvent être méthylables, alors évidemment, vous allez modifier l'expression de vos gènes. Et donc, si vous regardez les régions qui sont méthylées différentiellement entre un chimpanzé et un sapiens, mais aussi entre un néandertal et un sapiens, c'est là que c'est intéressant, vous voyez qu'il y a des régions qui sont différentiellement méthylé, il n'y a pas de mutation là, c'est juste les C qui sont avec un méthyle ou sans méthyle, et vous voyez que les régions qui sont extraordinairement fortement modifiées dans les déméthylations sont des régions qui sont dans l'appareil buccal, dans la colonne vertébrale et dans le bassin, qui sont des régions qui sont très différentes en fait entre sapiens et le néandertal. Il y a un des gènes méthylés qui est un gène intéressant qui s'appelle NFIX, et en fait moins il y a de méthylation et plus ce gène est exprimé. Et vous voyez qu'il y a une maladie humaine, qui est la maladie de Marshall-Smith, Malan syndrome, ce qui est S, où l'activité trop forte de ce gène entraîne une modification de la face. Et chez les Néandertals, il y a une très forte méthylation qui fait supposer que le profil de Néandertal, il devait être comme ça. Donc, encore une fois, je ne voudrais pas faire la peine à un Néandertal, mais de ce point de vue, le Néandertal est beaucoup plus proche du chimpanzé, le Denisovien aussi, qui est un autre humain archaïque, que ce qui se passe chez ces cinq sapiens. Donc, de nouveau, là, on a un Néandertal qui est quand même plus proche du singe, du chimpanzé, que nous. Donc, c'est pas pour dire du mal des chimpanzés ou des singes, on s'en fiche, on est tous aussi évolués les uns que les autres. Il n'y a pas de hiérarchie en évolution, ça n'existe pas. Mais simplement que nous sommes des singes très différents. Et ça, nous sommes très différents pour des raisons que j'ai essayé de vous expliquer en vitesse, c'est que c'est pas ces 1,26% ne vous disent pas qu'on est 98 quelque chose singe. Ça a des conséquences importantes et je ne dirais pas qu'il n'y a pas de culture chimpanzé. Oui, il y a une culture chimpanzé. Il y a aussi effectivement les corbeaux. Il y a deux espèces de corbeaux, Nouvelle-Calédonie et en Hawaï, qui sont capables de prendre des brindilles et aller chercher des vers dans des trous. Et les chimpanzés sont capables de fabriquer avec deux outils, des termites, et c'est une culture parce qu'on ne les voit pas dans tous les mêmes biotopes. Mais très honnêtement, ça n'a pas tout à fait la même valeur que la culture chez Sapiens. On peut s'en réjouir ou s'en plaindre, mais c'est pas tout à fait la même chose. En plus que chez Sapiens, la culture est très accélérée, très cumulative. On a mis deux hommes sur la Lune en 1960 ou quelque chose par là. En 1904, on ne pouvait pas construire un avion quasiment. Donc vous imaginez la vitesse à laquelle ça peut aller. Donc ce côté cumulatif de la culture chez Sapiens, ça nous amènera à la catastrophe. Hein. Ça, c'est pas grave. Je suis bien d'accord. C'est le tragique humain. Quoi. C'est-à-dire qu'on sait bien ce qui va nous arriver. On sait bien ce qui va nous arriver et on sait bien ce qui va arriver à la nature. Alors, j'entends toujours, et je m'en réjouis, qu'on se soucie beaucoup de ce qui va se passer dans la nature, dans quelques centaines d'années, peut-être même avant, les fameux 2 degrés, si on arrive à limiter à 2 degrés. Et très honnêtement, je suis tout à fait favorable à l'idée qu'on fasse tout pour limiter les 2 degrés, bien entendu. Y compris changer les formes d'utilisation de l'énergie, de production de l'énergie. Mais on peut aussi se poser une question. Après tout, pourquoi ? Est-ce que c'est si grave que ça, que Sapiens disparaisse ? Parce que tous les gens qui veulent sauver la nature, en fait, ils veulent sauver Sapiens. On se demande pourquoi, d'ailleurs, parce que ils veulent sauver leurs arrière-arrière-arrière-petits-enfants en pensant que ce sera le même génome, c'est une espèce de désir d'immortalité absolument ahurissant, alors que ce ne sera pas le même génome de toute façon. Vous avez vu le génome, enfin, je ne vais pas montrer tout parce que c'est trop catastrophique, mais ils veulent sauver Sapiens. En fait, c'est des hypocrites, ils ne veulent pas sauver la nature. C'est intéressant, cette question, parce que moi, je préfère sauver la nature. En fait, la nature s'en sortirait beaucoup mieux sans Sapiens. Il n'y a pas d'espèce éternelle. Voilà. Il n'y a pas d'homme éternel, je suis désolé pour vous. Encore plus pour moi, pour rien vous cacher. Il n'y a pas d'espèce éternelle, je suis désolé pour l'espèce humaine, mais comme les autres, elle a un début, un milieu et une fin. Et ce sera aussi la fin de la nature, parce qu'il n'y aura personne pour la chanter.
Le Collège de France et France Culture vous ont présenté dans le cadre du colloque Les Natures en question, la conférence d'Alain Prochian de 1,23% à 900 cm3, petites différences et grandes conséquences. Et tout de suite, voici celle de Justin Smith, Le naturel et l'inné, une perspective historique.
Du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe, de nombreux auteurs européens ont cherché à relier l'inégalité raciale humaine à des traits physiologiques ou phénotypiques visibles. Rétrospectivement, les différentes théories s'avèrent être autant de formes de rationalisation a posteriori des inégalités sociales déjà existantes. Toutefois, l'idée que c'est le cœur qui produit ou qui cause la personne, un présupposé fondamental du naturalisme moderne, a contribué de façon importante à ce que cette rationalisation ait pu paraître comme un modèle exemplaire du raisonnement scientifique. Or, aujourd'hui, aucun membre de la communauté scientifique ne prend plus au sérieux l'idée qu'il existe des différences raciales essentielles à l'intérieur de l'espèce humaine, qu'il y a de vrais sous-types de l'espèce, que la classification raciale réussit à découper la nature à ses joints. Ce rejet du réalisme racial par la communauté scientifique a été officiellement instauré dans la déclaration de 1950 de l'UNESCO sur la question de la race, signée par Claude Lévi-Strauss, entre autres. Il a été approfondi dans les décennies suivantes, par exemple dans la recherche de Richard Lewontin du début des années 1970, prouvant que la différence entre deux individus de deux races différentes n'est pas plus grande en moyenne que celle entre deux individus de la même race sélectionnée au hasard. La race est donc exposée comme catégorie populaire, comme un folk taxon, sans aucune validité scientifique. Il est vrai que récemment, les résultats de Lewontin ont été remis en question par des chercheurs qui ne sont pas, eux, des idéologues racistes, voire par exemple les travaux de Edwards ou de Rosenberg. Et personne ne va douter que les individus appartenant à des populations dans des régions différentes du globe tendent à partager des traits physiques les uns avec les autres, qu'en moyenne, un Nigérien ressemble moins à un Suédois qui ne ressemble à un autre Nigérien. Mais nous n'avions pas besoin de la science pour nous informer de cela, et ce n'est pas non plus la science, mais plutôt l'analyse conceptuelle qui peut nous expliquer pourquoi ce fait évident, la différence apparente entre un Nigérien et un Suédois, ne nous révèle aucune frontière réelle, aucun joint de la nature. Comme l'explique bien Naomi Zack, ou moi-même dans le livre déjà cité, on a tort de croire que le jugement de différence raciale relève d'une perception directe des traits physiques phénoménalement saillants. C'est plutôt l'inverse. On juge d'abord qu'il y a une différence essentielle interne et on cherche ensuite des différences physiques perceptibles pour ancrer cette différence invisible supposée. C'est pour cette raison que les chercheurs ont ce qu'on appelle aujourd'hui aux États-Unis la philosophie critique de la race, préfèrent parler de catégories racialisées au lieu de parler de catégories raciales ou de race. C'est vrai qu'on peut facilement distinguer un Nigérien et un Suédois, et souvent, mais pas toujours, un blanc américain et un africain américain, d'après le phénotype. Cette facilité est toutefois loin d'être la règle dans l'histoire du racisme. Et ce qui est à l'œuvre le plus souvent, c'est une exagération ou même une simple invention des différences physiques inspirées par le jugement préalable d'une différence essentielle, comme c'était le cas pour les Juifs en Europe dans la première moitié du XXe siècle ou pour les nomades kazakhs selon les nomades mongols d'aujourd'hui. Les Juifs, pour prendre l'exemple mieux connu, étaient donc racialisés à un moment de l'histoire et déracialisés à un autre. Bruno Snell a argumenté au milieu du siècle dernier qu'il manquait aux Grecs à l'époque d'Homère une idée concrète du corps, les premières occurrences du mot « soma » étant synonyme de « cadavre ». D'après lui, une telle idée apparaîtrait seulement au moment où l'idée complémentaire de l'esprit commence à se figer. Ainsi, pour qu'un individu se conçoive comme étant dans un corps, comme « embodied », il faut qu'il soit d'abord capable de se concevoir comme étant un sujet immatériel, ou au moins pneumatique, capable d'être localisé dans un corps. Or, de nombreux penseurs de diverses traditions ont bel et bien pu concevoir des sujets sans corps, ce qui nous montre que l'idée de l'esprit n'implique pas toujours celle d'un esprit incarné. Ceci est particulièrement clair dans la doctrine souvent appelée « dualisme », associé surtout au nom de René Descartes. La capacité de penser l'esprit indépendamment du corps a souvent été considérée comme un accomplissement singulier de la réflexion abstraite propre aux Occidentaux, comme une capacité rare parmi les êtres humains de penser au-delà des données de l'expérience perceptuelle. Malgré l'argument de Snell, on a souvent présumé dans la tradition philosophique occidentale que c'est avec la donnée certaine du corps que nous commençons et que ce n'est qu'ensuite, après un grand effort intellectuel et peut-être aussi avec l'assistance divine, que nous découvrons le secret de l'esprit. L'histoire des contacts transatlantiques qui commence à la fin du XVe siècle peut nous aider à mieux comprendre ce qui est vraiment particulier dans la pensée européenne sur le rapport âme-corps. À partir des premières rencontres des Espagnols, chrétiens, aristotéliciens, plus ou moins, avec les indigènes américains, nous détectons une confusion réciproque concernant les engagements ontologiques fondamentaux de l'autre groupe. Prenons un exemple classique et peut-être déjà un peu épuisé. Lévi-Strauss, dans son « Race et histoire » de 1952, parle des peuples indigènes des Caraïbes qui, au XVIe siècle, tentaient de vérifier en noyant et immergeant les hommes blancs qu'ils avaient fait prisonniers si leurs corps étaient autant sujets à la putréfaction que les leurs. L'interprétation la plus commune de cette histoire, aujourd'hui déjà bien connue, c'est que, alors que les Européens soupçonnaient souvent les Américains d'être des animaux, les Américains, pour leur part, prenaient les Européens pour des dieux et avaient ainsi du mal à croire que les corps des Européens étaient des corps naturels dans le sens usuel du terme. Il serait utile toutefois de compléter cette explication avec ce qu'a écrit Eduardo Viveros de Castro sur les conséquences de ce premier contact. Il s'agit ici précisément d'un choc entre deux ethnocentrismes ou, pour l'exprimer autrement, entre deux régimes ontologiques. Dans le régime européen, l'âme est la dimension marquée, l'élément fondamental pour qu'un être quelconque puisse même candidater pour être inclus dans l'espèce humaine. Pour les Européens, la corporéité d'un tel candidat n'est jamais mise en question. C'est le corps qui est certain. Pour l'Américain, par contraste, il n'y a jamais de doute que les Européens aient des âmes, et néanmoins, ce fait en soi ne leur accorde pas le statut d'être humain. Car il faut également établir que leurs corps apparents sont des corps réels. Nous avons aujourd'hui le réflexe de dénoncer l'absurdité du doute du conquistador concernant l'humanité des Américains qu'il était en train de vaincre et d'annihiler. Nous voyons rétrospectivement que ce doute résulte d'un ensemble d'engagements ontologiques provinciaux, ou, autrement dit, nous sommes capables aujourd'hui de démasquer l'ontologie des Espagnols comme rien d'autre qu'un ethnocentrisme. Mais le caractère écrasant et total de la conquête nous empêche de voir en même temps le fait qu'il y ait eu également une perspective sur les Européens, que les Américains se posaient des questions concernant leur nature à eux, des questions qui étaient pour leur part motivées par leurs propres engagements ontologiques non universels. Dans la mesure où ces engagements peuvent être récupérés du passé, ce que nous trouvons, c'est que le modèle européen de l'être humain, comme étant essentiellement une âme qui est incarnée soit dans une maison, soit dans une prison corporelle, et qui est intimement liée avec cette maison-prison, sans être identifiée à elle, n'est ni une donnée primitive de la phénoménologie de l'existence humaine, ni du simple bon sens à l'anglaise. C'est plutôt le fruit d'une histoire locale qui sera celle qui arrive à dépasser son territoire, à conquérir le monde par la violence et finalement à imposer son propre curriculum philosophique. Prima facie, il y a quelque chose d'étrange dans le fait d'utiliser le vocable ontologie au pluriel, sans parler du fait d'étudier les ontologies dans une approche comparatiste. Depuis le moment où Rudolf Clenius a introduit ce néologisme dans son Lexicon Philosophicum de 1613, ontologie est un concept censé désigner la science ou la doctrine de ce qui est. Or, il ne peut, semble-t-il, y avoir qu'une seule science de ce type. Le monde est tel qu'il est, et donc il ne peut y en avoir qu'une seule description correcte. Or, du moins, ce serait le cas si l'on était confronté en même temps à la polysémie du mot « monde », qui se trouva au cœur des controverses en philosophie dans les années qui suivirent la publication du lexique de Goclenius. Par contraste avec « univers » ou « espace », « monde » invite facilement à être pensé au pluriel. Déjà, Aristote avait noté que les humains habitaient un monde commun et singulier seulement en état de veille, car dans le rêve, chacun habite son propre monde. La radicalité du livre de Descartes, intitulé « Le monde », écrit autour de 1630, était justement d'insister sur l'uniformité et l'homogénéité de tout ce qui existe, sur le fait que « toujours et partout, c'est tout comme ici », pour citer le protagoniste de l'opéra comique de la deuxième moitié du XVIIe siècle, Arlequin dans la Lune. Pourquoi le concept de monde se trouve-t-il problématisé à ce moment précis de l'histoire ? La phrase même de « nouveau monde » exprime une ambiguïté que les penseurs du XVIIe siècle désirant incorporer l'Amérique économiquement, cartographiquement, épistémiquement, dans leur propre monde, se précipitaient d'éliminer. Ainsi, l'écrivain d'origine inca, Garcilaso de la Vega, insiste dans ses « Commentarios Reales de los Incas » de 1609, qu'il ne faut pas concevoir son pays comme appartenant à une autre réalité que celle de l'Espagne, qu'il ne faut pas le découper ni ontologiquement ni géographiquement. S'il y a, écrit-il, des hommes qui s'imaginent qu'il existe plusieurs mondes, il n'y a aucune autre réponse à leur donner qu'ils persistent dans leurs croyances hérétiques jusqu'à ce qu'ils en soient désabusés en enfer. La philosophie européenne moderne, comme nous commençons à percevoir, a été dès le début un projet transatlantique. Concentrons-nous en ce qui suit sur le cas de Gottfried Wilhelm Leibniz. Le philosophe allemand passe la plupart de l'année 1695 à faire des recherches sur les propriétés de la racine brésilienne Ipecacuanha, dont il publie les résultats l'année suivante, dans un rapport à la Société Léopoldine d'Hambourg, intitulé « De Novo Antidisenterico Americano ». C'est Wilhelm Piso qui ramène la racine en Europe pour la première fois en 1641. Il la décrit de façon détaillée dans sa « Historia Naturalis Brasilia » de 1648. Ipecacuanha arrive à Paris en 1672, quand le physicien de Louis XIV, Jean-Adrien Helvétius, l'utilise pour guérir la dysenterie du roi, semble-t-il avec grand succès. Leibniz avait espéré extraire de cette plante non seulement des remèdes médicinaux, mais également, dans la mesure du possible, des savoirs indigènes brésiliens. Il rejette donc l'opinion de certains autres qui nient que les remèdes avec tant de vertus déjà démontrées pourraient être obtenus pour les maladies de tous les tempéraments et toutes les constitutions. Il y en a, poursuit-il, qui condamne tout ce qui est exotique comme inutile pour nos cœurs européens. Cette même année, il publie son nouveau système de la nature et de la communication des substances, un traité pour le moins plus connu que celui sur l'ipecacuanha. C'est dans celui-ci qu'il parle pour la première fois de sa théorie métaphysique de l'harmonie préétablie et qui raffine et développe sa nouvelle idée des monades, des éléments qui, d'après lui, sous-tendent tout ce qui existe dans le monde naturel. Ce qui est réel dans le monde, ce ne sont pas les corps, c'est-à-dire les composés, mais plutôt les atomes métaphysiques et immatériels, les sites ou les centres de perception et d'agentivité. Toutes les perceptions d'une monade passent néanmoins par le moyen d'un corps phénoménal, mais au final, la corporéité elle-même n'est autre chose que le résultat de la perception confuse. Confusion est entendue ici dans le sens littéral de ce qui est fusionné ensemble. Les monades sont en soi parfaitement hermétiques, ce sont des mondes à part, et même si la réalité est, pour Leibniz comme pour Descartes, parfaitement homogène et uniforme, c'est ce caractère confus de la perception monadique qui fournit l'explication la plus profonde de l'existence apparente dans la nature d'une variété innombrable de formes corporelles. Appartenir à une espèce, pour Leibniz, est une question de tout ou rien, déterminée entièrement par le fait de descendre des mêmes ancêtres. Et même une variation morphologique extrême à l'intérieur d'une espèce ne peut pas signifier des degrés d'appartenance. La déviation du standard d'un type ne produit pas des chiens qui sont moins chiens que d'autres, ni des hommes qui sont moins hommes. Ce qui compte, c'est que le descendant conserve la même activité spécifique que les parents, que Leibniz appelle l'officium, l'office spécial, fondé in rigore metaphysico, dans l'appétit, qui pour sa part n'est autre chose que la réalisation sérielle de la perception. Donc, la définition d'une espèce est liée rigoureusement à son activité, à son éthologie, si vous voulez, et non pas à sa morphologie. C'est ce que tu fais, et non pas ce à quoi tu ressembles, qui détermine ce que tu es, et ce que tu fais dérive de ce que tu perçois. Souvent, c'est le fait d'empêcher un animal de faire ce qu'il fait par nature, d'après son officium, qui mène à sa déformation morphologique. Ainsi, dans le Journal des savants du 5 juillet 1677, Leibniz raconte l'histoire d'un chevreuil coiffé de manière fort extraordinaire, soupçonné par certains d'être une licorne, à cause du fait que ses cornes ont été comme fondues ensemble, confuses, pour le dire autrement. Leibniz explique que cette déformation est une conséquence du fait que dans la période de sa croissance, les mouvements naturels de l'animal ont été artificiellement restreints. Le chevreuil coiffé, dans d'autres mots, est un chevreuil tout entier. Les déformations ne sont ni des monstruosités, ni les débuts de ce que les darwiniens appelleront la spéciation. Elles sont plutôt les traces d'une interruption dans le processus de développement typique. Quant aux êtres humains, Leibniz distingue donc la nature interne et les marques externes d'un animal, en précisant que la nature interne d'un homme, son officium, est précisément la faculté de l'intellect. Normalement, cet officium est perceptible dans les marques externes, mais il ne faut pas qu'il soit perceptible pour qu'un homme reste un homme. Des traits externes différents chez deux hommes différents peuvent parfois donner l'impression qu'il s'agit de deux espèces, mais comme Leibniz écrit dans les Nouveaux Essais sur l'entendement humain de 1704, le mélange de figures n'est pas toujours un mélange d'espèces. Il raconte l'histoire d'un enfant déformé dont l'aptitude à être baptisé est disputée par certains membres du clergé. « Voilà un enfant, écrit-il, qui fut fort près d'être exclu de l'espèce simplement à cause de sa forme. » La déformation ne peut pas servir comme signe de l'absence d'une âme rationnelle, pour la même raison qui fait que la physionomie est une pratique frauduleuse. Ainsi, Leibniz croit pouvoir montrer que l'espèce humaine, comme par ailleurs toutes les espèces d'animaux, a une définition qui est à la fois réelle et nominale, même s'il est d'accord avec John Locke que les espèces physiques, comme celle du cuivre ou du soufre, ne sont finalement que des noms. Il explique donc dans les Nouveaux Essais que c'est la raison qui est la chose la plus interne à l'homme et qui en fait alors la définition. C'est pourquoi, poursuit-il, la barbe et la queue ne seront point considérées auprès de cette définition. Un homme sylvestre, dit-il, bien que velu, se fera reconnaître. L'homme sylvestre ici est évidemment l'homo sylvestris, ou pour citer le malais original, l'orang-outan, ou plus précisément le chimpanzé, décrit dans le traité du même nom publié par Edward Tyson en 1699. Or, un homme sylvestre dans ce sens strict n'est pas un homme. Et en réalité, la diversité à l'intérieur de l'espèce humaine, au moins sur le plan physique, est beaucoup moins prononcée que la différence entre n'importe quel homme et n'importe quel grand singe. Quoi qu'il en soit, ce que Leibniz veut souligner ici, c'est que même si les différences physiques entre les hommes sont énormes, ces différences ne peuvent pas résulter d'une différence d'essence, de ce qui est le plus interne. Si l'on empêche cette nature interne de se développer, il peut arriver que le corps se développe différemment, tout comme les cornes du chevreuil que l'on a empêché de sauter et de courir. Mais cela ne change rien pour l'humanité. Leibniz est souvent qualifié de nominaliste à cause de son dicton selon lequel « Natura non movit per saltus ». La nature ne se meut pas par saut. Or, il y a en effet pour lui un écart entre l'espèce humaine et toute autre espèce animale, et il faudrait faire justement un saut per impossibile pour arriver de l'autre côté. À l'intérieur de l'espèce, par contre, il n'y a ni des degrés continuels de l'humanité, ni frontières discrètes. Chaque individu est en quelque sorte identique à chaque autre, au moins en ce qui concerne l'espèce. La diversité à l'intérieur d'une espèce est la conséquence des différences au cours du développement corporel et donc du fait que les corps sont confus, chacun de sa propre façon. La diversité physique, tout comme celle des corps en général, est la conséquence phénoménale de la conclusion. Au XVIIe siècle, en Europe, les systèmes de savoir du monde extra-européen représentaient une sorte de tertium quid entre l'a priori et l'empirique. Il s'agissait de la connaissance des faits singuliers qui portent sur le monde naturel. Les propriétés médicinales de telle ou telle racine ou les puissances du venin de tel ou tel serpent. Mais cette connaissance n'était pas apprise, du moins pas de la même façon, dont un Européen décidait de se mettre à apprendre la science chimique ou botanique. Elle était plutôt censée naître de concert avec l'individu, simplement en vertu de l'intégration de celui-ci dans une société qui était, elle, intégrée dans la nature. Une telle société était supposément sans connaissance des vérités éternelles et inchangeables. L'existence de Dieu, notamment. Mais en même temps, ses membres avaient ce que la plupart des philosophes européens en considéraient comme une contradiction dans les termes, la connaissance innée des faits singuliers et contingents. L'une des innovations les plus étonnantes de la philosophie radicalement rationaliste de Leibniz a été de montrer comment ce genre de connaissance est possible et même nécessaire pour tous les êtres humains en tant qu'humains. À la fin du XVIIe siècle, donc, les systèmes de savoir indigènes offraient déjà un modèle pour étudier l'esprit comme essentiellement enraciné dans l'environnement naturel. La particularité de Leibniz, pour sa part, est de nous offrir une théorie de cet enracinement qui ne le considère pas comme une étape inférieure du développement de l'esprit humain, mais, loin de cela, qui postule que c'est dans la nature de la perception d'être toujours plongé dans la nature elle-même, ou autrement dit, d'être confuse. Mais cette immersion dans la nature n'est pas un naturalisme dans le sens de Philippe d'Escola, car pour Leibniz, ce que la nature est, finalement, c'est un reflet ou une explication sur le plan phénoménal de la perception elle-même. Pour cette raison, on peut comprendre la tendance qu'on observe depuis Durkheim d'assimiler la philosophie à une sorte d'animisme. Le contenu de toutes les monades, explique celui-ci, est identique. Toutes, en effet, sont des consciences qui expriment un seul et même objet, le monde. Seulement, chacune l'exprime de son point de vue et à sa manière. On sait comment cette différence de perspective vient de ce que les monades sont diversement situées les unes par rapport aux autres. Je soupçonne, pour conclure, sans pouvoir m'attarder là-dessus maintenant, que c'est justement ce côté animiste ou bien perspectiviste de la philosophie de Leibniz qui lui a donné les outils conceptuels pour se battre contre la hiérarchisation des races humaines que ses contemporains empiristes, comme par exemple John Locke, étaient en train d'articuler à l'époque. Selon Leibniz, bien sûr, Locke était innocent. Il ne faisait que reconnaître les conséquences évidentes de la naturalisation de l'être humain. Les quatre derniers siècles nous ont bien démontré les limites de ce projet. Comme nous suggère l'approche comparatiste de l'ontologie développée par Philippe d'Escola, le problème ne dérivait pas peut-être du fait que l'être humain serait quelque chose de non naturel, et donc il ne faut pas retourner à une idée d'un être séparé de la nature par le fait de sa position singulière d'un esprit, mais plutôt de la conception erronée d'une nature en soi à laquelle l'être humain puisse être assimilé. Merci de votre attention.
C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter le colloque Les Natures en question, la conférence de Justin Smith, Le naturel et l'inné, une perspective historique. Et en première partie, vous avez pu entendre celle d'Alain Prochian, de 1,23% à 900 cm3, petite différence et grande conséquence. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations, les vidéos et la bibliographie liées à cette diffusion. Les actes du colloque « Les natures en question » sous la direction de Philippe d'Escola viennent d'être publiés chez Odile Jacob. Iconographie web Claire Poinsignon. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons sur le questionnement des natures humaines en compagnie d'Anne Cheng et de François Host. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.